Jésus, le roi qui veut entrer, le roi qui frappe à la porte. Cette semaine, on a entendu toutes sortes de nouvelles dans les médias. Bon, il y a parfois des bonnes nouvelles, mais ce sont très souvent des mauvaises nouvelles. Question de guerre, crime, mauvaise gestion des fonds publics, décisions politiques qui sont mal pensées, et j'en passe. Puis, on peut réagir de différentes manières par rapport à ces nouvelles-là. Mais souvent, ce qu'on ressent, c'est de la déception face à nos élus politiques. Peut-être quelqu'un pour qui on avait voté et puis en qui on avait placé un espoir. Et bon, différentes personnes votent pour différentes personnes, mais peu importe, c'est le même principe, que ce soit Justin Trudeau ou Philippe Couillard ou Jovenel Moïse qui vient de devenir le président d'Haïti récemment ou Donald Trump aux États-Unis. Il y a comme un consensus que on va placer un espoir, puis on va finir par être déçu. Ça va se confirmer à chaque fois, et vous savez quoi? C'est normal. C'est normal parce que les politiciens sont des êtres humains comme nous. Et même si leurs promesses électorales sont encourageantes et prometteuses, et même si ils sont peut-être au fond d'eux bien intentionnés, les politiciens se butent toujours aux limites du système, au défaut du pays dans lequel ils travaillent, au défaut de ceux avec qui ils travaillent, puis aussi à leurs propres lacunes. Est-ce qu'il faut cracher sur nos politiciens? Non. La Bible nous encourage à prier pour eux. Mais il faut quand même ne pas leur demander l'impossible. Il faut être réaliste. Notre race humaine, dont ils font partie, restera toujours prisonnière d'elle-même ici-bas. Ça, c'est une réalité. C'est vrai qu'il y a des politiciens qui méritent d'être chassés, à tel point ils sont hypocrites. Mais même ceux qui sont sincères demeurent prisonniers des fléaux qui habitent la race humaine. Maintenant, le texte qu'on va voir ce matin, c'est que Jésus, lui, ben, le texte qu'on a lu, en fait, nous montre un leader différent. Puis ce leader-là, c'est Jésus. Jésus de Nazareth, oui, on le sait, il a vécu il y a 2000 ans, et par sa vie, son enseignement, et surtout la manière qu'il est mort, les humains se sont rendus compte qu'en fait, il était différent. Jésus vient d'un autre monde. Jésus nous amène un système qui vient d'ailleurs. Et donc, mon objectif ce matin, c'est de voir à partir du texte qu'on a lu sur l'entrée de Jésus à Jérusalem, que Jésus est un roi qui veut vraiment régner, mais dans ta vie. C'est un roi qui veut vraiment apporter la paix dans ton monde à toi. Et c'est un roi qui est aussi médecin puis qui veut amener la guérison dans ton cœur. Donc, nous allons voir un après l'autre ces trois grands thèmes. OK, le règne, qu'est-ce que ça veut dire? La paix, qu'est-ce que c'est? Puis la guérison de Jésus, c'est quoi? Tout ça pour te poser la question ce matin. Veux-tu laisser entrer Jésus comme ton roi dans ta vie? Ça va? Vous me suivez jusqu'à date? Nous avons lu le texte tantôt et quelle histoire! En fait, Jésus, il entre en même temps que des pèlerins qui vont à chaque année à Jérusalem de tous les coins de la Palestine et même d'ailleurs pour la Pâque. Mais lui, quand il arrive, il rentre sur un ânon et puis il y a des choses qui se passent, la foule l'acclame et ben en fait, il y a une drôle de fin dans cette histoire. Il rentre dans le temple. Cette histoire, donc, nous amène vers trois observations, trois points importants. Le premier point, Jésus, c'est le roi qui veut vraiment régner. Jésus, c'est le roi qui veut vraiment régner. On voit que dans l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, en fait, c'est lui-même qui a planifié qu'est-ce qui est arrivé. Vous avez remarqué, il rentre sur un ânon, mais c'est lui qui donne les instructions aux disciples d'aller chercher l'ânon. Il a planifié ça jusque dans les détails. En commençant par le mode de transport, qui est le petit âne lui-même. Alors, curieusement, pour les Hébreux, l'âne est une monture royale. Pas pour tous les rois, mais pour le Messie de la fin des temps qui allait venir. Les prophètes ont dit que le Messie serait assis sur un ânon. On va y revenir. Mais il y a un autre détail. Il faut que ce soit un ânon sur lequel personne est déjà monté, d'accord? Un ânon flambant neuf qui sent encore le cuir, oui. Donc, alors, un ânon très spécial. Les choses neuves, les choses pas touchées par personne, sont souvent, les choses sacrées qui sont utilisées dans le temple par les prêtres doivent aussi être sacrées dans cette chose, dans cette même façon-là, c'est-à-dire jamais utilisées pour un autre usage. C'est un peu comme Dieu, il est sacré, il est à part, il faut que les choses pour lui soient à part, réservées pour lui. Et autrement dit, Jésus se voit comme un roi comme ça. Il est un roi à part. Et par le choix de sa monture, de son véhicule, de son pape mobile, on pourrait dire, c'est peut-être un peu exagéré, mais il est en train de dire, « Je suis un roi sacré, je suis le roi que Dieu a envoyé. » Et les gens vont découvrir, « Je suis le roi dans lequel Dieu lui-même habite dans toute plénitude. » Alors maintenant, que signifie le mot « règne » hein, parce que c'est souvent traduit par « royaume » ou « royauté » ou « règne », mais moi j'aime bien la traduction « le règne de Dieu ». Qu'est-ce que c'est le règne de Dieu dans la Bible? Parce que partout dans la Bible, on parle du Dieu qui règne. Bien, ce n'est pas un territoire, bien que ça peut l'impliquer, mais ce n'est pas vraiment un territoire, ce n'est pas vraiment une juridiction, ce n'est pas vraiment un palais spécifique. C'est un peuple, un ensemble de sujets. Quand on dit sujet, parce que dans l'ancien temps, quand nous les humains, on avait des rois, puis certains pays en ont encore, ceux qui sont sous le roi, on les appelle les sujets du roi. Donc, les sujets, on va dire, c'est nous autres. Les sujets, et peu importe s'ils sont ensemble dans le même pays ou éparpillés sur la planète, ce qui est important, c'est que ces sujets-là ont une dévotion réelle à Dieu. C'est ça le règne de Dieu. Son règne n'exige pas une hiérarchie administrative non plus. Hein, comme les administrations humaines ont besoin de hiérarchie avec beaucoup de fonctionnaires. Mais en fait, dans le règne de Dieu, chaque sujet a une relation personnelle et directe avec le roi. C'est quand même assez extraordinaire. Et par leur dévotion, les sujets obéissent au commandement du roi avec son aide et ils ont une influence morale positive sur les humains à côté d'eux qui ne sont pas encore sous le règne. Vous me suivez? Donc, c'est quelque chose d'un peu invisible, d'un peu fluide, mais de très réel. Voilà le règne de Dieu. Puis, une autre chose qu'il faut dire, c'est que on ne devient pas sujet du règne de Dieu par naissance. Ça, c'est assez important de le dire. C'est sur invitation qu'on devient membre ou qu'on devient sujet. Jésus veut t'inviter à faire partie de son règne. Le savais-tu? Il y a un verset du livre de l'Apocalypse, ce qui est le dernier livre de la Bible, et peut-être si vous ne l'avez pas lu, mais vous avez entendu l'Apocalypse, vous pensez que c'est un livre très épeurant. Il y a des bouts épeurants, mais il y a des bouts aussi très rassurants, dont celui-ci, c'est le Jésus ressuscité qui dit au monde, il dit aux individus, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, voyez-vous un peu comment Jésus invite. Mais Jésus invite en s'invitant. Il frappe à ta porte. Il veut rentrer dans ta maison. C'est en fait un passage de la Bible qui a inspiré beaucoup les imaginations des artistes et j'ai trouvé plusieurs peintures et portraits de cette image à l'Internet, dont celui-ci, Jésus frappe à la porte. La porte symbolise quoi, d'après vous? Le cœur, l'être intérieur, la volonté et tout ça, mon moi. Et Jésus frappe et il ne force pas, il faut ouvrir. Il faut décider d'ouvrir. Il t'invite, il faut que toi tu l'invites pour recevoir sa royauté. Remarquez peut-être cette porte, il y a un élément qui manque dans cette porte, un objet qui devrait être sur la porte qui n'est pas là. La poignée extérieure est manquante. Et symbolisant, encore une fois, Jésus ne forcera pas, mais il peut peut-être frapper fort, mais il faut que toi, tu en arrives à vouloir ouvrir. Au final, on voit que Jésus, que ce soit à Jérusalem ou aujourd'hui, Jésus est venu pour régner. C'est vrai. Puis, en fait, oui, il veut régner à Jérusalem. Et un jour, il régnera pleinement à Jérusalem. Mais à ce stade-ci de la game, on pourrait dire, c'est dans notre vie qu'il veut régner. Et c'est pour ça que les chrétiens annoncent la bonne nouvelle de Jésus aujourd'hui dans le monde entier, depuis le livre des Actes et même aujourd'hui. Et ça va se poursuivre. Voici comment certains croyants expliquent à leurs amis qu'est-ce que ça veut dire inviter Jésus à régner dans ma vie. Voilà une image simple du règne de Dieu, deux sortes de vie. Ça vient d'un pamphlet de l'organisme Pouvoir de changer. Et deux sortes de vie. Hein? Donc, celle à gauche, ça c'est ma vie, OK? Le cercle, c'est ma vie. Puis la chaise, ben, ça représente le trône, le lieu de commande, on pourrait dire. À qui est-ce que ma volonté ou à quoi est-ce que ma volonté est soumise? Alors, celui qui n'a pas encore ouvert la porte à Jésus ou celle, eh bien, moi, est assis sur le trône. Je suis en charge. Jésus est dehors et qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il frappe à la porte. Oui, mais prenez ça dans le bon sens. Jésus frappe à ta porte. Ça veut dire que l'offre, elle est pour tout le monde. S'il est vraiment Dieu, ben c'est ton Créateur et il frappe à ta porte à toi aussi. Et le deuxième cercle, une autre sorte de vie, c'est la personne qui a invité Jésus à entrer. Jésus est assis sur le trône et puis moi est au pied du maître. Mais dans la réalité, ensemble, ils travaillent ensemble. Et c'est vrai que le jour où j'ai reçu Jésus dans ma vie, eh bien, il est venu en moi et je ne suis plus seul. C'est vrai que je dois me soumettre à lui, mais c'est un roi qui est doux. C'est un roi qui a beaucoup d'amour pour moi. Et c'est une autre sorte de vie. Et c'est une vie, on appelle ça la vie abondante. On appelle ça la vie éternelle. Voilà deux sortes de vie. C'est une manière d'expliquer quelque chose qui est au-delà des explications, mais qui est la bonne nouvelle pour toi. Veux-tu accepter l'invitation de Jésus aujourd'hui? Oh, j'ai entendu ce oui. Ça, c'est bon. Le deuxième sujet, c'est Jésus, un roi qui apporte la vraie paix. Hein? Donc, on a parlé de l'annon, hein? Et puis, c'est une monture triomphale, on l'a dit, parce qu'il y a au moins deux prophètes, mais surtout Zacharie, qui a dit que le Messie, le roi Messie, rentrerait sur un annon dans la ville sainte. Mais l'autre signification de l'annon, c'est que c'est un animal de paix. Un animal de paix et un animal humble. Parce qu'il faut le comparer au cheval. Normalement, un roi est monté sur un cheval. Et puis, en particulier, un roi conquérant, parce que c'est ça qui se passait quand un roi rentrait dans une ville dans les périodes de l'Antiquité, comme ça, c'est qu'il venait de la conquérir par la force, par la violence. Souvent, c'était comme ça. Il rentre à cheval et derrière lui, il y a sa cavalerie. Donc, une troupe à chevaux, à cheval, et puis ils ont leurs épées, ils ont leurs lances, il y a des trompettes qui jouent fort, et ça veut dire, c'est moi votre autorité maintenant, tassez-vous, et puis vous allez m'écouter parce que sinon, ça va très mal aller pour vous. C'est quand même intéressant que Ponce Pilate, qui était le consul romain, qui avait été nommé par l'empereur romain pour aller là-bas à la même époque, bien, son palais à lui était à Césarée, mais il est venu lui aussi à Jérusalem pour la Pâque, parce qu'on va le voir là. On va le voir là dans l'histoire. Si vous voulez mieux connaître l'histoire, venez vendredi, parce qu'on va la lire. Et lui, probablement, est rentré à cheval à Jérusalem par la porte, on va dire, nord-est, parce que Césarée est vers le nord-est. Et il est certainement rentré à cheval, suivi de sa cavalerie et ses trompettes. Jésus rentre par le sud-ouest, parce qu'il est passé par Béthanie voir ses amis, et il est acclamé par la foule. Il est sur un ânon. Il vient sur un animal de paix et d'humilité, comme pour dire, je suis une autre sorte de roi, moi. Je viens en paix et je viens apporter la paix. Je veux vivre humblement dans la joie au sein de mon peuple. Ça, c'est la sorte de roi que nous autres, on a. La paix dans la Bible, c'est le mot « shalom », enfin, dans l'Ancien Testament, « shalom ». Et le « shalom » de Dieu, c'est beaucoup plus que l'absence de conflit. Hein, parce que nous, quand on demande à nos politiciens de nous apporter la paix, si c'est juste éliminer les conflits, déjà, on est content. Mais la « shalom » de Dieu va plus loin que ça. C'est parce que l'amour déborde des cœurs. L'amour entre les humains commence à régner et donc il y a l'harmonie qui se crée de l'intérieur du cœur, les uns avec les autres et avec Dieu. C'est ça la shalom de Dieu, c'est quand même merveilleux. Et puis quand on va être dans le royaume éternel, on va vivre cette shalom-là et non seulement il n'y aura pas de conflit, mais il n'y aura pas de porte d'accès au conflit. Quand nous, dans les couples, puisqu'on parle du mariage dans certains dimanches, quand on a des problèmes de couple, puis moi j'en ai eu, je sais que des fois, la solution humaine dans mes problèmes de couple, c'est que je vais dire, bien, je vais aller me promener. Je vais aller marcher pendant une heure ou deux pour avoir la paix. Même si c'est moi qui ai causé le conflit, je vais toujours blâmer l'autre personne et je vais dire, elle va me laisser en paix. Bon, ça, c'est pas mauvais, mais c'est une solution humaine. On élimine le conflit, on a la paix. Mais est-ce que c'est pas merveilleux, la shalom de Dieu dans un mariage, quand il fait jaillir de l'intérieur de notre cœur l'amour, le pardon, la réconciliation? Et là, le conflit n'a plus accès. Jésus a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et la paix que je vous laisse, ce n'est pas comme celle que le monde donne. Hein, » Jean 14, verset 27. Jésus donne une autre sorte de paix. Il dit aussi ceci, c'est un autre beau passage où Jésus dit, « Celui qui croit en moi ou celle qui croit en moi, des fleuves d'eau vivifiante couleront de lui, ou littéralement couleront de son sein, c'est-à-dire de son cœur, de son être intérieur, des fleuves d'eau qui donnent la vie. » Et le mot pour vie, en passant, c'est Zoé. Zoé, ça c'est ton nom. Je voulais juste te dire que c'est vraiment un beau nom. Et oui, parce que la vie de Dieu, c'est pas bios. Bios, c'est biologie, la vie naturelle. La vie de Dieu, c'est Zoé. C'est un autre niveau de vie. Une vie qui vient du ciel, en quelque sorte. Bon. Et tu peux devenir un faiseur de paix si tu as la paix de Dieu qui jaillit de ton cœur. Je vais vous raconter l'histoire d'un faiseur de paix que j'ai rencontré personnellement. Il s'appelle Luc. Et j'ai peut-être déjà raconté cette histoire ici, je ne sais pas, mais c'est une histoire qui m'a beaucoup frappé. C'est un étudiant qui est venu du Cameroun. Je ne sais pas s'il y a des Camerounais parmi nous ce matin. Je sais qu'on a des membres Camerounais, mais en tout cas, Luc venait du Cameroun à Montréal pour étudier à l'UQAM. Mais il est arrivé en pleine année scolaire, il est arrivé en janvier, en plein hiver, et non seulement il faisait froid, mais il n'y avait plus de logement étudiant, sauf une cinquième place dans un appartement pour cinq étudiants dans une des résidences de l'UQAM. Et donc, il va là, il arrive avec ses valises, puis les quatre autres étudiants qui sont déjà là depuis janvier sont en pleine chicane. Pourquoi? Parce que la place était tellement dégueulasse, c'était sale, et personne ne voulait faire du ménage, puis tout le monde mettait le blâme sur quelqu'un d'autre de ne pas avoir fait le ménage. Ceux qui s'en vont à l'université, préparez-vous, c'est le ménage, c'est ça va vous sanctifier. Mais en tout cas, ici, lui, il rentre, et puis carrément la chicane pendant qu'il ouvre la porte, et ça brassait tellement fort que il les a juste évités, il est allé mettre ses valises dans la chambre et où il devait se mettre, et puis il a déposé ses valises, il s'est jeté sur le lit, il a commencé à crier à Dieu. Et dans sa prière, il disait, « Seigneur, où est-ce que tu m'as amené pour poursuivre mes études? » C'est un champ de bataille ici, là. Comment est-ce que je vais faire? Oh là là, c'est la tourmente totale. Père, qu'est-ce que je dois faire? Et vous savez, il priait comme ça, il criait, il se lamentait. Et il y a quelque chose, comme un fleuve d'eau vive qui a jailli de son sein. Et c'est comme une voix qui lui a dit quoi faire. Il a eu une idée saugrenue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé de son lit, il sort de sa chambre. Et sans parler aux autres, qui continuent à se disputer, il va trouver l'armoire où se trouve tout le matériel de nettoyage. Il sort les guenilles, le produit nettoyant, la chaudière d'eau, la mop, Et il se met à nettoyer. Il commence par la cuisine, puis il va salle par salle, pendant que les autres se chicanaient.
Amen.
Oui. Et finalement, eux, ils commencent à se calmer, parce qu'ils remarquent que lui, il s'est mis au travail. Puis finalement, ils ont commencé à l'aider, puis ils ont tout nettoyé l'appartement ensemble. Tu le dis bien. Et finalement, parce qu'il avait, c'était un gars qui avait beaucoup de leadership en plus, il dit, « Hey, on devrait se parler. » Puis il a comme animé une conversation après, où ils ont décidé qu'ils allaient faire un repas ensemble une fois par semaine et qu'ils allaient faire un horaire pour, vous pouvez deviner, le ménage. Et ça a vraiment marché. Alors, incroyable, incroyable. Voyez, la présence du roi Jésus dans ta vie te donne la force d'aimer vraiment, de pardonner, de passer au-dessus des offenses, de confronter les offenses avec la vérité, mais dans l'amour. Pas facile à faire, mais Jésus qui règne en toi va te donner la paix pour le faire. Il va t'aider à devenir un faiseur de paix. Alors, acceptes-tu son invitation de venir régner en toi et apporter la paix? Mon troisième et dernier point, Jésus est un roi et un roi médecin. Il veut apporter la guérison. Dans l'histoire qu'on a racontée, vous avez peut-être remarqué quelque chose d'assez énigmatique qui est arrivé à la fin. Jésus est acclamé comme roi par une foule. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de ses disciples qui étaient là et qui l'acclamaient, puis d'autres ont suivi. Et lui, quand il rentre dans la ville, peut-être, on se dit, il s'attendrait à ce qu'on l'installe dans un palais, qu'on aille le présenter à Ponce Pilate. Il dit, Ponce, voici ton nouveau roi. Non, Jésus, lui, s'intéresse à autre chose. On voit qu'il va dans le temple, puis on a l'impression qu'il est tout seul ou peut-être accompagné d'un ou deux de ses disciples. Il dit qu'il passe son temps à observer tout ce qu'il y a autour de lui dans le temple. Imaginez Jésus qui rentre ici et puis il regarde ce qui se passe, il regarde ce que les gens font, il regarde comment les gens sont habillés peut-être, comment ils se parlent, il regarde les instruments de musique. Et il dit qu'il regardait tout autour de lui, tout ce qui se passait, tout ce qu'il y avait. Et puis après ça, très discrètement, il va avec ses disciples, ils se trouvent à un endroit isolé et calme et ils vont dormir. En fait, ils vont dormir en plein air. Assez bizarre pour un roi, assez décevant comme programme ou comme première journée. Mais Jésus avait un plan. Jésus avait un plan, il préparait un grand geste. Est-ce que quelqu'un se souvient du grand geste qu'il est en train de préparer? La Pâque, oui. C'est ça. Le lendemain, il va entrer dans le temple et il va faire quelque chose de choquant. Il va chasser les vendeurs du temple. Il va faire un geste dur, pas populaire, mais apparemment vraiment important pour lui. Il va chasser les vendeurs. Voyez-vous, il y a plusieurs explications de la raison qu'il a fait cela, parce que c'est un geste qui comportait, on va dire, une certaine violence. Il y avait plusieurs parties du temple, dont le parvis des non-juifs ou le parvis des gentils. Ce parvis était un lieu de prière pour les internationaux, pour ceux qui n'étaient pas encore devenus juifs. Et en même temps, tous les pèlerins qui voulaient faire un sacrifice et qui venaient de loin, il fallait qu'ils achètent un animal à Jérusalem pour pouvoir le sacrifier. Et donc, il fallait aller quelque part l'acheter. Puis, à un certain moment, ils ont décidé, on va déménager les ventes de bêtes, les pigeons, tous les animaux, et les kiosques de changement d'argent, on va les déménager dans le parvis des non-juifs. Et c'est devenu comme la place de commerce. Apparemment que Jésus était vraiment fâché par ça. Et c'est pour ça qu'il va s'écrier, en citant les prophètes, il dit, « N'est-il pas écrit, « Mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Donc, on voit un peu l'esprit de ce roi. Il dit qu'il vient dans la paix, et c'est vrai, mais d'abord, ce roi, il veut purifier, il veut guérir. Et quand je dis guérir, il y a le beau côté de guérir qui est le résultat final, mais ça peut passer par des choses qui font mal. Hein? Jésus est un roi qui est doux, mais il peut brasser les choses pareilles parce qu'il veut guérir, il veut purifier. Et le temple, c'est un symbole aussi de notre vie. Dieu veut faire de toi un temple sacré. Jésus veut habiter ton temple sacré et il veut que tu l'adores lui dans ton propre être, dans ton temple, et à l'extérieur, que tes actions glorifient son nom dans ta vie de tous les jours. Et il veut te préparer pour cela. Il y a une histoire que j'ai lue, une histoire en fait pour les enfants, c'est le petit livret qui s'appelle « Mon cœur, la demeure de Christ » par Robert Munger. Et c'était un sermon pour les adultes au départ. Puis en fait, l'idée, c'est que quand tu invites Jésus à entrer dans ta vie, bien, c'est l'histoire de quelqu'un qui le fait et Jésus entre et puis ça commence bien, mais la maison de la personne, elle a plusieurs chambres et plusieurs placards. Et au fur et à mesure que le temps avance, et Jésus dit, « Mais tu ne m'as pas encore invité dans la salle de jeu. » Et la personne va dire, « Mais en fait, ce n'est pas vraiment une place pour toi. » Puis Jésus dit, « Oui, oui, c'est une place pour moi. » Et Jésus vient, et puis il y a des correctifs à faire pour que cette place soit propre, soit apte pour sa royauté, pour son règne. Et c'est la même chose pour toi ce matin. Peut-être qu'il y a dans ta vie une amertume envers un parent ou quelqu'un d'autre, quelque chose qui est là depuis longtemps, peut-être dans un placard de ta vie. Savais-tu que Jésus veut et va t'aider à identifier ça, à pardonner, à nettoyer? Peut-être que tu as une addiction dans ta vie, une dépendance malsaine envers quelque chose. Je peux les nommer, et ce n'est pas pour pointer du doigt, et ce n'est pas une liste exhaustive. Vous savez, les addictions, les idoles, les attitudes injustes sont en moi aussi. Mon cœur à moi aussi est une manufacture d'idoles et de mauvaises habitudes. Mais avec Jésus, je deviens la personne qu'il a toujours voulu que je sois. Les addictions, ça peut être la nourriture, ça peut être l'alcool, ça peut être les loteries ou le jeu, la pornographie, ça peut être les médias sociaux. Les idoles, il y a peut-être des divinités qui sont pour toi plus importante que Dieu. Tu t'en rends peut-être pas encore compte. Jésus va t'aider à le voir. Peut-être que c'est l'argent. Peut-être que c'est la popularité. Peut-être que c'est le sexe. Peut-être que c'est le pouvoir. Jésus aussi veut nous guérir de nos attitudes sociales qui sont injustes. Le racisme, le sexisme, la haine d'une minorité dans notre société. Peut-être que c'est le mépris de ton gouvernement. Tu ne le vois peut-être pas encore. Jésus, c'est un roi médecin. Il va te le montrer. Il veut faire de toi une personne pleine. Amen. Acceptes-tu d'inviter Jésus comme ton roi dans ton temple pour qu'il opère la guérison? Bon, on va conclure maintenant. Et j'inviterai les musiciens à s'approcher. Mais j'ai encore quelques mots à dire. Donc, on a vu l'épisode de Jésus entrant dans Jérusalem. C'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Mais c'est aussi une image de notre histoire avec Dieu. Puis peut-être que quelqu'un aujourd'hui va vivre un dénouement heureux ici, dans son histoire avec Jésus. Parce que cette personne, peut-être que tu vas décider, oui, aujourd'hui, c'est la journée où je vais inviter Jésus à entrer, à régner dans ma vie. J'ai compris son invitation. Je ne peux pas dire non. Je l'invite. Ou peut-être que tu l'as déjà invité, mais qu'il y a une chambre dans laquelle tu veux maintenant lui dire, viens. Viens, c'est le temps. J'ai besoin de guérison. Je vous rappelle nos trois questions. D'abord, l'affirmation, Jésus est le roi qui veut vraiment régner dans ta vie. Veux-tu accepter son invitation? Jésus veut apporter la vraie paix dans ton monde. Acceptes-tu qu'il amène la paix? Et Jésus est le roi qui veut apporter une vraie guérison dans ton cœur. Il veut te guérir. Veux-tu accepter qu'il vienne dans ta vie? Alors, j'aimerais inviter tous ceux qui aimeraient répondre d'une manière ou d'une autre à se lever pour signifier que oui, je veux faire un pas de plus avec Jésus aujourd'hui. Et peut-être que vous allez être tout seul, peut-être que vous serez nombreux. Ceux qui aimeraient se lever, levez-vous. Il n'y a pas de gêne aussi à rester assis. Mais nous allons prier une prière d'invitation de Jésus maintenant. Jésus, le roi qui frappe à la porte. Ceux qui sont assis peuvent aussi la prier. Mais sache que si tu invites Jésus dans ta vie, si tu l'invites à aller plus loin dans son règne en toi, il est tellement heureux de le faire. Alors, prions. Moi, je vais lire à voix haute et puis vous pouvez prier silencieusement. Seigneur Jésus, j'ai dirigé jusqu'à présent ma propre vie. Et j'ai péché contre toi. Peut-être que je t'ai déjà invité, Jésus, et je sais que tu es là, mais je veux plus. J'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur, mon Roi. Je te remercie du pardon de mes péchés. Monte sur le trône de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amen.